Tam Israël, des infos, de la culture, un invité, une émission proposée par Thierry Rose, Dan Leclerc et Alain Lévy. Prenez une chaise et écoutez-moi. Chers amis, bonjour, bonjour Dan Leclerc, bonjour Alain Lévy et notre invité mystère que nous allons dévoiler très vite. Bonjour et surtout, Shana Tova.
Shana Tova, que tiens teuf.
Tiens teuf.
À toutes et à tous.
Eh bien, aujourd'hui, émission numéro 2 ou 1, puisqu'on a fait la 0 la dernière fois, et puis on va commencer à prendre notre rythme de croisière au fil de l'année. Donc, je vous rappelle, Shtam Israël. Alors, pour les non-alsaçophones, Shtam Dan.
Le Shtam, c'est un moment de réunion, de rencontre, de discussion, de convivialité autour, normalement, d'une table avec quelques boissons ambrées. Là, c'est autour d'un micro et c'est notre invité qui a une peau légèrement ambrée parce qu'il est bronzé, hâlé par le soleil. Son origine, vous l'entendrez peut-être au nom de sa voix, mais surtout, c'est un fervent, un Alsacien, un entrepreneur, un grand monsieur de cette communauté. Nous avons le plaisir de recevoir avec nous
Yossi Merki.
Bonjour, Shana Tova, avec Metuka.
Bonjour Yossi, Shana Tova.
Donc c'est le bronzage agricole. Hein,
ouais. Agricole et agronome, hein, voilà. Formation d'origine.
Yossi, on va... Donc nous t'avons... Oh, là, on va se tutoyer parce que c'est un Shtam, hein, ici on se tutoie.
Oui.
Nous t'avons invité aujourd'hui dans cette émission Shtam Israël pour parler d'Israël, bien sûr, et les nouvelles fonctions que tu as endossées il y a quelques semaines. Président de la Chambre de commerce France-Israël Grand Est. Donc... Avant de nous parler de la Chambre de commerce France-Israël, Yossi, on avait l'habitude dans notre ancienne émission avec Dan Leclerc de retracer un peu la vie de nos invités. Donc, Yossi, est-ce que tu pourrais nous faire en quelques mots un petit peu un résumé de ton parcours brillant ?
Alors, brillant, je ne sais pas s'il l'est, mais en tout cas, il a été un peu oblique. Donc, né au Maroc, j'ai émigré directement en Israël du Maroc pour faire mes études d'agronomie à l'Université hébraïque de Jérusalem. Et après ce parcours, j'ai opté pour continuer mes études à Strasbourg en biochimie, virologie et faire ce qu'on appelait à l'époque une sorte de MBA à l'école du management qui s'appelait à l'époque l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises. Voilà. Donc, quand on me demande pourquoi je suis à Strasbourg, je dis j'ai suivi un des deux couloirs à Cigogne, le Maroc vers l'Alsace ou Israël vers la Pologne et l'Alsace. Donc voilà, tu vois, deux couloirs à Cigogne.
Tous les chemins mènent à l'Est.
Voilà. Et arrivé à Strasbourg, un parcours d'études assez concentré. Et puis, 2 ans après avoir commencé à travailler... j'ai créé une entreprise d'éditeur de logiciels que j'ai vendue près de 25 ans après et qui me permet aujourd'hui de me consacrer à d'autres activités, en particulier dans l'agronomie, puisque je fais de l'huile d'olive et des grenades dans le sud de la France, et une école Fabéon, une école qui est dédiée aux technologies de l'impression numérique, textile, packaging et 3D, donc une sorte de finale de transmission.
Voilà, un parcours dans la transmission et dans l'entrepreneuriat, Yossi.
Absolument.
Qui est important à tes yeux. Et rappelons quand même que l'entreprise que tu as créée a été à renommée mondiale parce que c'est un acheteur américain à qui tu l'as cédé.
Oui, un acteur du New York Stock Exchange, Fortune 500, donc l'entreprise Dover, qui est spécialisée dans plusieurs secteurs dont le marquage... dans le marquage, c'est-à-dire tout ce qui est sur les bouteilles, sur les œufs, sur le packaging, etc. Donc ils avaient un segment assez fort, et ayant racheté un acteur de l'impression textile en Italie, il leur fallait un logiciel compétitif et de qualité mondiale, donc ça a fait le match.
Et de là, tu ne t'es pas arrêté, donc, comme tu as dit, tu as créé Fabéon, une sorte de Fab Lab très transverse, où d'un côté il y a de l'ingénierie, du recherche et développement, de la formation également, une école.
Alors Fabéon, c'est plus un écosystème, c'est une sorte de triumvirat entre une école, donc un campus, une Fab Lab pour donc avoir des matériels expérimentés, formés, etc., et un incubateur ou un start-up studio, comme on dit aujourd'hui, pour donner la chance soit aux élèves, soit à des entrepreneurs, soit à des innovateurs de venir nous rejoindre et profiter de l'écosystème complet où on peut trouver des ressources humaines, du matériel, de l'expertise.
On peut passer de l'un à l'autre et finalement tout le monde s'auto-gère.
Absolument, c'est vraiment une sorte de lieu d'incubation et de développement.
Alors ce développement, il prend ses sources dans l'origine de ton travail, de tes passions, de tes visions, et ça prend également, comme le disait Thierry tout à l'heure, ses racines aussi en Israël, où tu as émigré à 17 ans, tu as fait ton avia.
Alors j'ai fait mon bac au lycée français de Jérusalem, donc j'ai fait ma terminale pour pouvoir linguistiquement être prêt à assumer l'environnement israélien, qui est quand même... un environnement où la langue est très importante. En venant du Maroc, je n'avais pas la chance d'avoir fait une école juive. J'avais fait le lycée, donc français.
Lycée Lyautey.
Voilà, lycée Lyautey, exactement.
Que tout le monde connaît à Strasbourg.
Voilà, un lycée extrêmement cosmopolite. Et donc, j'ai pensé qu'une année d'anticipation linguistique me donnerait un avantage par rapport au type qui arrive vraiment... le jour d'après le bac.
Il y avait un esprit sioniste quand même.
Il y avait bien sûr, quand tu parles juif marocain, tu parles de gens qui ont vraiment ce sionisme ancré au fond du cœur, mais avec quand même une forme de pragmatisme, parce que voilà, on entendait, j'ai fait ma bar mitzvah au Kotel, donc j'ai quand même, j'avais pas de famille au Maroc, donc ça n'avait aucun intérêt de réunir... des gens pour un événement qui est quand même symbolique, donc j'ai préféré le faire. On m'a proposé soit de le faire au Maroc et avec les cadeaux m'acheter une Rolex, soit de faire soit de faire la bar mitzvah au Kotel. J'ai préféré le Kotel.
C'est ce côté entrepreneur et altruiste qui t'anime, puisque après avoir vendu ta société, tu aurais pu te bronzer tranquillement sur les plages de Tel Aviv et tu as préféré repartir dans des projets.
Alors
c'est vrai qui ont du sens. En fait,
hein, alors, très honnêtement, pour se bronzer sur les plages de Tel Aviv, il faut vendre sa boîte beaucoup plus cher que ce que j'ai vendu. Donc, quand on connaît les prix de Tel Aviv, ça fait peur. Non, je dirais que pour moi, vendre une société, c'était plus permettre de passer à un autre projet. C'était pas tellement le côté gros chèque qu'on reçoit et après qu'est-ce qu'on fait. C'était plus de dire voilà, on a fait une partie de sa vie dans un métier et puis ensuite on imagine sa vie dans une autre fonction, dans une autre dynamique, et ça me faisait chaud au cœur de pouvoir avoir entre guillemets le confort intellectuel, spirituel de ne plus être dans la course, mais d'être dans la profondeur.
Sérénité. Voilà. Ouais. Non, mais ce côté altruiste, j'insiste, tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, mais surtout extrêmement discret. Peu de gens te connaissent à Strasbourg. J'ai la chance de te connaître parce que j'ai étudié avec ta sœur qui est partie en Israël, que nous saluons, Florence. Et aujourd'hui, tu as fermé une page, tu en ouvres une autre. Celle que tu as fermée, tu avais une vision. Très tôt, tu as compris que l'informatique, c'était un peu le pétrole de demain. Aujourd'hui, quelle est ta vision ?
Alors, aujourd'hui, l'informatique, pas vraiment. En fait, je suis rentré presque par accident, un peu comme Obélix, je suis tombé dans la soupe très jeune. Et ça n'a rien à voir avec mon aspect physique. Hein. c'est juste que la vie, c'est un alignement d'étoiles, c'est des rencontres. J'ai rencontré... une personne technique avec qui malheureusement je n'ai pas pu continuer l'aventure, donc j'ai dû prendre des décisions de gestion assez dures, parce que quand on s'associe il y a toute une dynamique particulière. C'est une partie de mon histoire, voilà, mais surtout je voulais pas être un employé. Je voulais avoir ma propre vision, ma propre...
Les mains libres.
Voilà, les mains libres. Vraiment, il y a ce côté un peu juif qui veut modeler son destin.
Voilà.
Voilà.
Et donc, aujourd'hui, cette nouvelle tranche de vie, on va dire, qui est beaucoup plus sereine, donc c'est orienté vers une exploitation de paysans, on va dire. Tout à l'heure, on en rigolait, mais c'est vrai. C'est le retour à la terre, en fait, aussi bien en France qu'en Israël.
Alors, on dit que les cercueils ne peuvent pas contenir des billets de banque.
Et donc... En Alsace, on dit que les sargonesses n'ont pas de poche.
Voilà. Donc, j'ai eu à l'esprit de pouvoir planter des arbres. Donc, j'ai planté 7000 grenadiers. Donc, c'est le fruit biblique par excellence qui contient les 613 grains qui correspondent aux 613 mitzvot. J'ai planté plusieurs milliers d'oliviers.
Symbole de paix.
Voilà, symbole de paix. Et je me dis que voilà, si c'est une histoire qui s'inscrit avec des racines en France, dans le sud de la France, le Gard, qui ressemble vraiment très très proche de la région de mon père au Maroc, le Moyen Atlas, avec tout ce que ça peut voilà, comporter d'émotions. Mon père disait, la vie c'est comme la bicyclette, si c'est facile c'est que t'es en descente. Et...
Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes.
Et puis surtout, il y a le côté moral, c'est-à-dire que quand on croit que c'est facile parce qu'on a soi-disant une certaine réussite financière ou pécuniaire, eh ben on se laisse aller vers des valeurs morales qui sont peut-être en déclin.
Très, très bien.
Et moi, j'ai préféré l'ascension avec des challenges comme Fabéon, cette école donc des nouveaux métiers de l'impression numérique. Avec l'agriculture raisonnée, qui est quand même aussi un challenge dans le climat qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, c'est des challenges que j'ai pris sur la fin de ma vie, même si à 60 ans...
Oh, ma fin de ma vie
Non, mais je veux dire, à un âge où on se sent encore
capable... Qu'est-ce
que va dire
Thierry, le pauvre ?
C'est la force de l'âge, Yossi.
Oui.
Yossi Mergui, que nous recevons aujourd'hui dans Shtam
Israël.
Israël, il nous raconte sa vie, mais... Tu es là aussi également pour nous parler d'un événement de la rentrée de la rentrée de 5784, on va dire, qui est la création et dont tu as pris les rênes de la Chambre de commerce France-Israël Grand Est. Est-ce que tu pourrais peut-être nous résumer un petit peu ce qu'est la Chambre de commerce France-Israël?
Donc la Chambre de commerce France-Israël, pour moi, c'était... donc d'abord, c'est déjà un organisme qui existe... avec un centralisme parisien, une histoire véritablement profonde dans le paysage français, qui a toujours attiré des grands patrons, qui a su créer cette dynamique entre la France et Israël. Au niveau de Strasbourg, c'est un format qui n'était pas encore véritablement dynamisé. Donc, sous ta gouverne, Thierry, tu m'as proposé ce challenge supplémentaire, et je t'en remercie. Et j'ai essayé de l'imaginer dans une formule qui n'est pas juste communautaire. Pour moi, le commerce, c'est pas une synagogue, on n'a pas besoin d'un minyan, donc on peut le faire avec des gens de tous horizons, de toute origine. Et c'est un petit peu comme j'ai vécu mon parcours. Tu le disais avec discrétion au niveau communautaire, mais quand on a une centaine de salariés, comme c'était mon cas, en partant de rien avec rien, puisqu'on arrive à Strasbourg du Maroc avec pas grand-chose, si ce n'est sa tête, c'est pas évident d'avoir du temps pour toutes les tâches communautaires. Donc j'ai été peut-être un peu éloigné. Aujourd'hui, je me préoccupe un petit peu plus de mes racines, de mes origines, de ma foi. Donc... La chambre de commerce, c'est une manière de réunir au sein d'une même dynamique des gens d'origines diverses, que ce soit de confessions diverses, d'horizons professionnels divers, au sein de quelque chose qui va essayer de créer un nouveau maillage à partir de Strasbourg, puisque cette formule existe dans plusieurs régions de France. Mais à Strasbourg, elle n'était pas très...
active.
Voilà, très active.
Oui, il y avait une représentation. On m'avait demandé de faire l'intermédiaire, mais ce n'est pas du tout dans mon domaine de compétences. Et aussi, juste pour l'histoire, la présence séculaire des Juifs en Alsace, venue avec les légions romaines, c'était pour le commerce. C'était pour les échanges. Et une des raisons du développement des communautés le long du Rhin, de Mayence à Bâle, c'est le commerce. Donc on est tout à fait dans cette tradition judéo-alsacienne qui ensuite, bien sûr, a permis à la France d'être la troisième communauté juive du monde, puisque les juifs dont tu fais partie sont venus en Alsace parce qu'il y a des valeurs, parce qu'il y a du business, il faut le dire aussi, et puis qu'il y a des structures communautaires.
Ça tombait bien parce que, justement, non seulement j'ai pris cette direction alsacienne, mais, ou Grand Est plus exactement, qui peut même d'ailleurs s'étendre au niveau de la frontière germanique, mais aussi je participe à un autre volet de dynamisation économique avec le MID France-Maroc. Donc j'essaye de faire cette...
Les accords d'Abraham.
Voilà, cette triangulaire entre le Maroc, qui est quand même le pays où je suis né, qui est un pays où mon cœur continue de battre. Israël, qui est celui qui m'a donné la maturité universitaire. Et Strasbourg, qui m'a ancré économiquement, professionnellement, à travers la création de cette entreprise Caldera, qui continue d'exister à Strasbourg. Et Fabéon, c'est aussi l'invention des nouveaux métiers. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'est très cher. On dit que 95% des nouveaux métiers n'existent pas encore, donc il faut bien que quelqu'un les invente. Et on est aujourd'hui autour d'une table. Elle ressemble à du bois, mais je sais que c'est une impression façon bois.
Ne trahis pas tous les secrets de la radio, là. Sinon, ouais, ils vont croire que c'est une radio en carton.
C'est le principe de Wichtamtisch, d'être autour d'une table en bois.
Voilà. Alors, c'est du bois,
mais... C'est du bois, en tout cas.
Mais c'est une impression. Donc, tout ce qui est aujourd'hui céramique, bois, textile, verre, s'imprime. C'est une industrie gigantesque. On ne se rend pas compte tous les jours en se promenant dans la rue de tout ce qui est imprimé, parce que ça a l'air normal, même en utilisant son iPhone ou son iPad ou d'autres marques quelconques. On ne se rend pas compte que c'est un appareil qui est en circuit imprimé. Donc l'imprimé, et comme par hasard, quand je dis imprimé, je pense à Gutenberg qui a commencé à Strasbourg et qui est parti pour des raisons de financement en Allemagne et qui a laissé échapper à Strasbourg des pans gigantesques de l'industrie mondiale. Et j'espère qu'avec Fabéon et mon projet aussi...
En fait, c'était Fabéonberg avant, hein, c'est ça ?
Non. Et j'espère qu'avec ce projet-là, et la ville de Strasbourg et l'Eurométropole, on a un projet de ramener... presque en malgré nous, Gutenberg, dans l'ère numérique. C'est-à-dire que, certes, il était parti à l'époque analogique, mais je pense qu'on peut le ramener en numérique et faire de Strasbourg une...
La capitale de l'impression.
Oui, oui, franchement, je pense que, d'abord, on le mérite. Il a quand même commencé ici. Et on a ce mal français. On a inventé la photo, on a inventé l'aéronautique, on a inventé l'automobile... Et on laisse s'échapper toutes ces inventions et souvent des légions d'hommes et de femmes qui vont servir de leur talent d'autres nations, alors que voilà, c'est la France qui en était la source. C'est vraiment particulièrement dramatique.
Le génie français. Le génie français. Justement, en revenant un petit peu à Israël, j'ai eu la chance de faire la connaissance d'un de tes collègues, Benny Langman, qui fait la même chose que...
Benny Landa.
Oui. Pas tout à fait la même chose.
Un
israélo-canadien installé à Rehovot, et qui, lui, justement, à propos de ce génie, développe un très gros service de recherche et développement, complètement isolé, complètement de l'université, pour ne pas avoir de fuite de propriété intellectuelle et de technologie. Donc c'est peut-être aussi un petit peu ça le problème, c'est d'avoir arrivé avec des fonds privés à développer une entreprise comme tu l'as fait, Benny Langda aussi, en Israël, arriver à développer... Est-ce que l'écosystème israélien peut être transposé en France, en Alsace ?
Je pense sincèrement que l'écosystème israélien n'a rien de véritablement particulier, si ce n'est qu'il donne une grande liberté administrative, opérationnelle, aux fondateurs d'une entreprise. J'ai moi-même souhaité conserver un lien avec Israël en investissant dans une société de fabrication d'imprimantes 3D qui s'appelle Massivit. J'ai fait un investissement conséquent pour donner une chance à cette entreprise de réussir mondialement. Et maintenant, j'attends un petit peu le retour. Mais... Je ne pense pas qu'Israël soit si atypique. Il y a juste peut-être en France ce complexe que du risque. Voilà, c'est encore que voilà, j'ai pu trouver à Strasbourg des banquiers compréhensifs qui ont vu la capacité d'un immigré de créer son entreprise, de la développer.
On fait ses preuves aussi, hein.
Mais franchement, ce que Israël offre peut-être en plus, c'est cette force de vouloir sortir d'Israël. C'est assez contradictoire ce que je dis, c'est-à-dire que en Israël, on peut pas aller voir ses voisins. Il faut savoir vendre ailleurs qu'en Israël. Et en France, on est aussi très fort pour ça. Finalement, on est l'un des premiers exportateurs agricoles au monde. Notre vin, notre fromage est connu dans le monde entier.
Ouais, particulièrement à Versailles ce soir, en présence du roi Charles III, les fromages alsaciens.
Mmh. Et donc la technologie, on sait la créer, mais peut-être que on n'a pas ce côté anglophone ou anglo-saxon de pouvoir très vite imaginer ces technos en dehors de la France.
Alors je veux citer un ministre des Finances français. Je vais depuis très longtemps avec mon épouse, nous nous rendons à Paris, et puis cette année tu seras avec nous, au dîner justement de la Chambre de commerce France-Israël à Paris, où il y a toujours beaucoup de monde. Et l'invité en 2016 était le ministre des Finances qui s'appelle Emmanuel Macron, qui est président de la République aujourd'hui, et il a cité justement l'écosystème israélien favorable aux startups et aux créations d'entreprises pour son système fiscal. C'est-à-dire pour son environnement fiscal qui est peut-être plus favorable qu'en France. Est-ce que c'est le cas ?
Je pense qu'il y a de ça.
L'entrepreneuriat est quand même plus facile en Israël qu'en France.
J'avoue que je ne l'ai pas pratiqué moi personnellement en Israël, donc je ne peux pas vraiment en parler. Mais de ce que je vois, de ce que j'entends, c'est qu'il y a des dispositifs et on donne vraiment des moyens pour aller recruter de l'argent et le défiscaliser, clairement.
Alors, et aussi, pour les 2-3 minutes qui nous restent, peut-être juste nous reparler de ton bureau France-Israël Grand Est, Chambre de commerce France-Israël Grand Est, pardon, de nous parler de ton bureau et peut-être les prémices des projets et des événements à venir.
Alors, c'est un bureau que nous venons de constituer. J'ai essayé de le créer dans une démarche très ouverte et extra-communautaire. Nous ont rejoint vraiment des acteurs d'exception comme Marco Tubiana, Dan Leclerc. Absolument. Lila Merabé, Jean-Jacques Bernardini de Grand Enov. Voilà, et d'autres industriels qui sont en train de se positionner pour rejoindre le bureau. L'idée, c'est de créer un courant d'information et de dynamisation économique avec Israël, de trouver des startups françaises qui voudraient s'allier à des startups israéliennes, de trouver des startups israéliennes qui voudraient se développer en Europe et de donner une chance à Strasbourg d'être le terreau, le foyer de croissance d'une entreprise israélienne qui voudrait réussir en Europe.
Très bien.
Il ne faut pas oublier qu'Israël aussi est un lieu central pour tout ce qui est l'impression numérique. Hein. Ouais. Je veux dire, il y a eu des énormes sociétés. Tu parlais de Benny Landa avec Indigo, qui a été racheté par HP. Mais il y a eu Cytex, il y a eu Nur, il y a eu... vraiment, il y a une foison d'entreprises qui ont formé l'existence aujourd'hui de l'impression numérique.
Très bien. Donc, il ne faut pas oublier aussi pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent que... On adhère à la Chambre de commerce France-Israël en tant qu'entrepreneur. Donc, tous ceux qui sont intéressés par commercer avec Israël et avoir des facilités via cette Chambre de commerce France-Israël Grand Est et son président Yossi Mergui, son bureau, adhérer à cette Chambre de commerce pour ouvrir le chemin vers les échanges bilatéraux commerciaux. Merci beaucoup à Yossi.
Il y aura, je disais que très prochainement, j'imagine que les informations pour adhérer à la Chambre de commerce seront disponibles et sur Radio Judaïka et sur le site de la Chambre de commerce en Israël Grand Est, et que nous ne manquerons pas, bien évidemment, de vous tenir informés et de pouvoir directement adhérer depuis le site internet et la connexion via radiojudaïka.strasbourg.fr.
Tu parlais juste vraiment deux mots. On va essayer de focaliser sur tout ce qui est écologie, l'eau, l'énergie. Voilà, ça c'est les premiers sujets, les premières fondamentales de ce qu'on veut créer comme dynamique, sachant qu'Israël est très fort dans ces sujets.
Esprit Tikkun Olam.
Voilà, Tikkun Olam, absolument.
Merci beaucoup Yossi Mergui. Merci. Dan, la semaine prochaine, nous recevrons, je crois, Alain Lévy pour une grande chronique sur l'Alia.
Absolument, suite et puis des témoignages, bien évidemment, dans l'esprit même de Shtam Israël.
Bonne fête à tous, merci Yossi, merci Alain, merci
bonne fête.
Merci à tous.
Merci.